Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Près de 15 400 cas de coronavirus en Afrique. Le port du masque sera obligatoire en Guinée dès samedi. En Libye, la ville de Tripoli a reçu une pluie de roquettes après un revers pour le maréchal Khalifa Haftar. Des archives sur les disparus de la guerre d'Algérie ouvertes par la France. Nous ferons aussi le point sur la pandémie du Covid-19 dans le monde avec prolongation du confinement dans plusieurs pays. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Le coronavirus a tué à ce jour au moins 835 personnes en Afrique, qui compte maintenant 15 376 cas. En Guinée, le président Alpha Condé a décidé d'imposer le port du masque à partir de ce samedi, face à la progression alarmante de l'épidémie dans le pays. Le point de la situation sur le continent africain avec Jacques Aristide.
Le chef de l'État guinéen affirme que tout contrevenant sera empêché de circuler et une taxe de désobéissance civile de 30 000 francs guinéens sera infligée. La Guinée a fait état de plus de 300 cas de contamination. Alpha Condé lui-même évoque l'allure inquiétante à laquelle le virus se propage. Il appelle toutes les entreprises, tous les ministères et toutes les ONG nationales et internationales à fournir des masques à leurs employés d'ici à samedi. Au Gabon, le confinement de Libreville et de 3 communes limitrophes a débuté hier sous la surveillance des forces de l'ordre. Les commerces sont restés fermés pour le malheur des habitants qui n'ont pas fait de réserve. Pour le chef du gouvernement gabonais, Julien Nguoké-Bekele, l'évolution de la pandémie est préoccupante dans le pays avec 57 personnes infectées, dont un mort. L'Éthiopie et les Nations Unies ont ouvert ce mardi une plateforme de transport humanitaire à l'aéroport d'Addis Abeba pour acheminer des fournitures et des travailleurs humanitaires à travers l'Afrique afin de lutter contre le coronavirus. Un premier chargement de 3000 mètres cubes de fournitures, essentiellement des équipements de protection individuelle pour les personnels de santé, sera distribué dans la semaine à venir.
Le Nigeria juge inacceptable les discriminations à l'égard de ses ressortissants en Chine. Abuja réclame une action immédiate de Pékin pour y mettre un terme. La découverte de ces cas de coronavirus a créé la suspicion envers la communauté africaine de Canton, la grande métropole du sud de la Chine. Différents témoignages de jeunes Africains circulent sur la toile, affirmant avoir été chassés de leur logement, puis refusés dans des hôtels ou placés en quarantaine obligatoire. L'OMS a annoncé que son comité d'urgence sur la fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo se réunit dans la journée pour décider si l'épidémie qui a repris constitue toujours une urgence internationale. Le comité d'urgence de l'OMS, qui s'était déjà réuni vendredi, doit décider si l'épidémie d'Ebola en RDC constitue encore ou pas une urgence sanitaire de portée internationale, a-t-elle indiqué, précisant qu'une décision était attendue dans la journée. Un deuxième décès a été enregistré dimanche dans la ville de Beni. Ce deuxième cas a fréquenté un même centre de santé que la victime enregistrée vendredi. Toujours en République démocratique du Congo, un naufrage sur la rivière Lumbembe au Kasaï a fait au moins 10 morts. L'embarcation accidentée avait à son bord plus de 20 personnes et était surchargée, a expliqué un responsable local de la société civile. Au Mozambique, un des narcotrafiquants les plus recherchés du Brésil a été arrêté hier, selon les autorités brésiliennes, qui l'accusent d'avoir envoyé des tonnes de drogue dans plusieurs pays. La police mozambicaine a confirmé cette interpellation qui a eu lieu dans la capitale Maputo. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli après le revers subi hier par les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui a perdu 2 villes dans l'ouest libyen. Le gouvernement d'Union nationale accuse le maréchal Haftar de mener des représailles après sa défaite. Nathalie Barge.
Les explosions de roquettes ont retenti sans interruption jusqu'à ce matin à Tripoli, notamment autour de l'aéroport de Mitiga, où des maisons ont été endommagées. Lundi, les forces pro-GNA se sont emparées des deux villes côtières de Sorman et Sabrata et ont repris le contrôle de petites villes plus au sud, privant le maréchal Haftar de tout accès à la côte ouest. Par ailleurs, elles cernent la base aérienne d'Al-Watiya, plus au sud, qui est utilisée par le maréchal Haftar comme base arrière pour faire décoller des avions. Les forces pro-Haftar qui se sont emparées en janvier de Sirte tentent toujours d'avancer vers Misrata. Des combats opposent les deux camps dans la région d'Abu Ghraib entre les deux villes.
Le gouvernement français a ouvert l'accès à une centaine de dossiers d'archives sur les disparus de la guerre d'Algérie. Le président français Emmanuel Macron avait promis en 2018 la libre consultation de ces archives. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cet arrêté prévoit la libre communication de dossiers sur les disparus du conflit actuellement conservés aux archives nationales. Ces dossiers ont été établis par la Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles, précise l'arrêté. Cette commission, créée en mai 1957, avait pour mission d'enquêter sur la réalité de la répression militaire et sur l'existence de tortures et disparitions durant la bataille d'Alger, qui s'est déroulée de janvier à septembre 1957. Depuis le début de son quinquennat, le président Emmanuel Macron a mené plusieurs actions pour tenter de guérir les blessures nées de la guerre d'Algérie. Il a notamment honoré les harkis, ces combattants algériens ayant servi la France puis abandonnés par Paris dans des conditions tragiques. Il a aussi reconnu que Maurice Audin, mathématicien pro-indépendance disparu en 1957, était bien mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France. L'historien Benjamin Stora salue cette décision, mais relève que cet arrêté n'ouvre pas la totalité des documents sur les disparus du conflit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie de coronavirus a fait plus de 120 000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe, depuis son apparition en Chine. Eric Manirakiza.
Depuis le début de la pandémie, environ 2 millions de cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et près de 600 000 aux États-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement. Plus de 121 000 décès ont été recensés, dont plus de 81 000 en Europe. Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé devant l'Italie, l'Espagne et la France. Les représentants des maisons de retraite au Royaume-Uni ont lancé un cri d'alarme dénonçant de nombreuses morts silencieuses provoquées par le coronavirus et ignorées des bilans officiels. La France a prolongé lundi d'un mois le confinement. Après Rome et Madrid, Londres envisage de le prolonger. Le premier ministre indien Narendra Modi a annoncé la prolongation jusqu'au 3 mai du confinement. L'Inde a recensé plus de 10 000 cas confirmés et 339 morts. Au Japon, le ministère de la Santé a édicté de nouvelles règles, notamment l'utilisation des boissons alcoolisées fortes comme désinfectants pour les mettre dans les hôpitaux face à la pénurie.
En Italie, la ministre de l'Agriculture a plaidé aujourd'hui pour la régularisation de 600 000 clandestins pour faire repartir l'économie durement touchée par l'épidémie de coronavirus. Cela a déclenché de vives critiques de l'extrême droite. Autre conséquence de la pandémie du coronavirus, plus de 117 millions d'enfants pourraient être privés de vaccins contre la rougeole. Des dizaines de pays ont interrompu leur campagne de vaccination afin d'enrayer la propagation du Covid-19 selon l'UNICEF. Ces reports s'expliquent par les mesures de distanciation sociale prises contre le coronavirus. Campagne présidentielle aux États-Unis, l'ancien président démocrate Barack Obama doit annoncer aujourd'hui son soutien à Joe Biden dans une vidéo selon son entourage. Le soutien de l'ancien président Obama, encore très populaire chez les démocrates, sera précieux pour Joe Biden, qui doit rassembler le parti après l'abandon de son rival Bernie Sanders. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le FMI versera une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde, dont 19 pays africains. C'est pour leur permettre d'alléger leurs dettes et allouer une plus grande partie de leurs propres ressources à l'impact de la pandémie du coronavirus. Cet allègement de la dette passe par le fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes naturelles ou de santé publique sous forme de dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables. En République démocratique du Congo, le groupe Katanga Mining rapatrie 350 employés suite au retard de la mise en service d'une usine d'acide dans la province de Lualaba. Selon Katanga Mining, le retard a été provoqué par les restrictions de voyage dues au COVID-19. L'usine d'acide devrait donc être mise en service au deuxième semestre 2020 plutôt qu'au premier semestre. Pour terminer, l'Égypte et le Soudan ont commencé à exploiter un réseau électrique commun avec une capacité initiale de 60 MW, a déclaré le ministère soudanais de l'énergie et des mines. Cette première phase de connectivité vise à fournir au Soudan une capacité allant jusqu'à 70 MW et qui passera à 300 MW dans la deuxième phase après la mise à niveau de certaines centrales soudanaises.
Et maintenant, la page sport présentée par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les lignes bougent en Côte d'Ivoire dans la course à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'un des candidats déclarés, Eugène Diomandé, s'est retiré de la course à la succession de Sidi Diallo et apporte désormais son soutien à l'ancien international Didier Drogba. Président du CEO Sport de San Pedro, Diomandé estime que la candidature de Didier Drogba est une chance pour le renouveau du football ivoirien. Didier a un projet à caractère innovant, audacieux et quasi révolutionnaire. Didier a tout ce que je n'ai pas eu et est pourvu de ce que je connais. C'est pour ça que je le soutiens, a expliqué Eugène Diomandé. Il est le deuxième candidat à se retirer des élections à la présidence de la FIFA. Avant lui, Malik Touré, initialement candidat, s'est rallié à Idriss Diallo qui fera face à Drogba et l'actuel vice-président Sory Diabaté. L'Assemblée générale de la FIFA, prévue pour mai, fixera les dates des élections. En Asie, la Confédération asiatique de football a annoncé le report jusqu'à nouvel ordre de tous les matchs prévus sous son égide en mai et juin. La principale compétition de clubs du continent, la Ligue des champions d'Asie, avait déjà été suspendue en mars à cause du coronavirus. Ce nouveau report implique que la phase de groupe de 32 équipes devra être achevée en juillet avant que la phase finale déjà reportée puisse commencer un mois plus tard. Moins de deux des six journées de la phase de groupe ont été achevées à ce jour. L'arrêt prolongé touche aussi le barrage de qualification olympique féminin à leur retour entre la Chine et la Corée du Sud. Ici aux États-Unis, Rachel Westbrook a fait don de 650 000 ordinateurs à des enfants dans le besoin alors que les écoles sont fermées à cause du coronavirus. L'association Why Not attendait, pourquoi pas, de la star des Houston Rockets, s'est associée à une autre à but non lucratif, Camp Oudop, pour fournir ce matériel éducatif. Cette dernière association a donné près de 1000 ordinateurs à des familles de Houston depuis le 18 mars. Les familles s'inscrivent à une loterie pour avoir la chance d'en bénéficier. Et pour finir, la star jamaïcaine Usain Bolt fait fureur sur les réseaux sociaux en contribuant à la lutte contre le coronavirus. L'ancien sprinteur a posté une photo de son époustouflante victoire aux 100 mètres des Jeux olympiques de Pékin 2008. Légendé de l'expression « distanciation sociale », le cliché montre l'athlète jamaïcain franchir la ligne en finale du 100 mètres, loin devant tous ses concurrents au nid d'oiseau de Pékin, établissant au passage le record du monde à 9,69 secondes. La publication cumulait ce mardi matin plus de 600 000 « j'aime » sur Instagram, 500 000 sur Twitter et 300 000 réactions sur Facebook. Usain Bolt, on le rappelle, compte 8 médailles d'or aux JO 2008, 2012 et 2016.
Merci Yacouba.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+. le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Le Gabon renforce son dispositif de surveillance à l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement a mis la capitale et trois communes environnantes en confinement total. Le pays est en état d'urgence depuis dimanche. Depuis Libreville, le reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Deux semaines de confinement total pour Libreville avec un possible prolongement de la mesure si nécessaire. Les premières heures de cette décision visant à limiter la contamination communautaire de l'épidémie à coronavirus provoquent des grincements de dents dans certains foyers. Aurélie Meillon est propriétaire de bar.
Vous demandez à une population qui vit à 80%, je dis bien à 80%, au jour le jour, par le matin, je pense à mes sœurs qui ont des petits bars, je pense à mes mamans qui vont au marché, je pense à toutes ces personnes-là qui n'ont même plus de clients parce que tout le monde est enfermé. Un individu qui a faim n'a pas peur de la maladie. Il va sortir parce qu'il va chercher de quoi manger.
La capitale gabonaise a des allures de ville fantôme depuis ce lundi. Plus de 2000 agents de force de l'ordre et de sécurité quadrillent le périmètre urbain pour faire respecter l'état d'urgence décrété par l'exécutif. Pour Claude Anguilé, médecin, la situation du moment l'impose.
Ou on reste à la maison, on contient l'épidémie, ou on circule avec l'épidémie et avec le virus et on met en danger tout le monde.
Le débat se prolonge dans les chapelles politiques proches de l'opposition, accusant le gouvernement d'avoir mis la charrue devant les bœufs. Louis-Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République.
Là où nous sommes là, même avec les quelques morts que nous comptons, quelle est la nécessité d'empêcher aux gens de quitter Libreville, qui prenait dans son village. Le couvre-feu est déjà suffisant. Donc on ne circule pas. À partir de 18h, c'est terminé.
Le Premier ministre rappelle les modalités pratiques du confinement total actuel du Grand Libreville. Julien Corbet-Calais.
Les citoyens des quatre communes concernées doivent rester chez eux. Seuls les services dont les missions sont jugées essentielles sont autorisées à exercer dans le respect des mesures, bien sûr, de prévention liées à cette pandémie.
Le gouvernement gabonais a par ailleurs annoncé le dépistage massif des populations cette semaine, de même que les opérations de distribution d'aide alimentaire pour les populations économiquement faibles en cette période de crise sanitaire. Libreville, Ismaël Obiangze, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Washington Forum revient cette semaine depuis la maison pour cause de Covid-19 et nous allons discuter justement des mesures de restriction allant jusqu'au confinement, voire l'état d'urgence dans certains pays pour stopper la propagation du Covid-19. Dans d'autres pays, les autorités vont même jusqu'à utiliser la géolocalisation grâce au smartphone pour, disent-elles, une meilleure traçabilité des personnes ayant testé positif au coronavirus. Certaines organisations de défense des droits humains jugent ces mesures excessives. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Bénin a enregistré jusqu'à présent 35 cas de contamination. 29 personnes sont sous traitement, 5 cas sont guéris, mais une personne est décédée. Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont procédé à l'installation d'un cordon sanitaire autour de 15 communes, dont Cotonou. Les conducteurs de taxi et les tenanciers de bars subissent mal les mesures restrictives. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Pendant un mois, les personnes habitant au sein du cordon sanitaire ne pourront le traverser, sauf en cas d'extrême urgence et muni d'une dérogation signée par l'autorité préfectorale. Une pilule amère pour certains comme Ernest, qui pensait négocier se rendre chez ses parents. Il dénonce un excès de zèle de la part des forces de l'ordre.
On m'a empêché de passer. Voilà que vous pouvez voir dans le véhicule, je suis seul. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé que je passe. J'ai écouté les communiqués à la radio, dans toutes les lignes. Non, ils n'ont pas refusé. à un personnel comme moi qui est seul dans mon véhicule de passer.
Le cordon sanitaire, c'est aussi l'interdiction faite aux taxis interurbains de transporter plus de 3 passagers. Même si cela reste un manque à gagner pour ces derniers, ils se disent obligés de s'y conformer afin de se mettre à l'abri du virus.
C'est la santé avant tout, dit-on. Bien que ça soit difficile pour nous, c'est encore louable. Mais c'est dur pour nous, mais on n'a pas le choix.
Nous, les chauffeurs, on est découragés. Parce que c'est ça qui nous fait que nous aussi, on trouve de l'argent. Tout ce qu'on mange par jour, c'est ça qui nous donne. Maintenant, ça nous a coincés, on ne peut même pas bouger. Les clients ne sortent même pas.
Depuis le 30 mars, les écoles, les églises, les universités, ainsi que les bars et buvettes et quelques restaurants qui reçoivent du monde ont fermé leurs portes, mettant au chômage technique quelques dizaines de personnes. Les patrons des bars et buvettes comprennent l'urgence de l'heure et espèrent des lendemains meilleurs pour leur business. Quelques-uns rencontrés se prononcent.
Activité, on a tout stoppé pour barrer la voie à cette crise-là.
Nous allons dire que ça fait juste mal à tout le personnel de la maison, y compris moi-même. Mais nous avons l'obligation parce que nous devons protéger nous-mêmes et protéger aussi les autres. La vie est chère plus que le bar.
Mais que dire des couvents dont le nombre de personnes qui y vivent échappe au contrôle de l'État? Rapprochés, les chefs traditionnels disent avoir mis la géomancie à contribution pour connaître les attitudes à adopter face au mal.
Quand ça arrive, il y a des dispositions que nous prenons à partir de la consultation de FA pour savoir par où il faut prendre. Et nous avons observé les rituels conséquents par rapport à ça.
Pour se protéger du virus, certains ménages ont installé devant leur portail des inscriptions demandant à toute personne de se laver les mains avant d'y entrer. Mais d'autres continuent de penser que le coronavirus est une invention pure et simple.
Coronavirus, moi je ne crois pas. Il faut de laver les mains. Si on fait de manger, on lave les mains. Non, il n'y a pas de différence.
Il faut que tout le monde prenne conscience pour savoir que ça existe. Le mal existe vraiment et ça tue.
Nous suivons rigoureusement les instructions du gouvernement parce que le coronavirus est devenu une réalité.
Même si les mesures sociales attendues par la population ne sont pas encore au rendez-vous, le gouvernement veille à limiter les situations pouvant conduire à une contamination de masse. Lundi, 106 agents exerçant à l'hôpital de la mère et de l'enfant ont été placés en quarantaine après que les tests effectués sur une sage femmes se sont révélées positives. De Cotonou, Ginette Fleur dans les pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, le port du masque facial est obligatoire pour chaque citoyen. Le pays a commencé la production à grande échelle de chloroquine pour traiter le Covid-19. Les hôpitaux sont déjà débordés avec plus de 850 cas confirmés en 6 semaines, qui pourraient devenir plusieurs milliers dans les prochains jours. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, le récit est de Lionel Gaïma.
Presque tout le monde dans les rues de Yaoundé arbore un masque respiratoire. La police veille à faire respecter la mesure prise par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Christian Yubin, 22 ans, s'exprimant via une application de messagerie, assure que la police l'a forcé à acheter et porter un masque facial.
Les températures sont très élevées, jusqu'à 35 degrés, et ils nous demandent de porter un masque qui nous étouffe. Je pense que la meilleure chose à faire est de respecter la distance sociale, rester éloigné des gens.
Le docteur Georges-Alain Toundimbala, directeur des opérations contre les pandémies et épidémies au ministère camerounais de la Santé, insiste sur les mesures préventives étant donné que les hôpitaux sont déjà débordés par le nombre de personnes infectées.
On va libérer des listes, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux qui n'ont pas besoin de traitement immédiat. Après, on peut monter en puissance plus loin, libérer les cliniques, aller plus loin, libérer des gymnastes, etc. Donc c'est vraiment une montée en puissance qui va imposer, bien sûr, de plus en plus des sacrifices, des désagréments et la mobilisation de tout le pays.
Madeleine Chouenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a fait savoir qu'en plus du port obligatoire du masque, le gouvernement a ordonné la production de chloroquine pour traiter les malades. Selon elle, le Cameroun a commencé à produire 6000 comprimés par jour et espère augmenter considérablement cette production quand il recevra plus d'ingrédients en provenance de la Chine.
Le gouvernement veut qu'avant que ça n'atteigne le pic, on puisse fabriquer 8 millions de chloroquine par jour, ici au Cameroun. Nous pensons qu'on pourra être à la hauteur de servir tous les Camerounais. Ce qui manque actuellement, c'est les intrants qui sont en Chine et en Inde. La Chine est prête à nous les livrer en 2 semaines.
La chloroquine est l'un des plus anciens antipaludéens. Ces dernières décennies, le médicament s'est fait remarquer comme agent antiviral potentiel. La semaine dernière, le Cameroun a annoncé la saisie de la chloroquine contrefaite dans au moins 300 pharmacies et hôpitaux et fermé 2 fausses sociétés pharmaceutiques. Des milliers de Camerounais se précipitent pour obtenir ce médicament, persuadés qu'il peut traiter les malades atteints de COVID-19. Emmanuel Anyangwengasa, un médecin né au Cameroun et exerçant en Allemagne, fait remarquer que les scientifiques n'ont pas encore prouvé l'efficacité de la chloroquine contre le nouveau coronavirus.
Quelle est l'essence de ce médicament? Il n'a pas été prouvé que la chloroquine traite le COVID-19 avec succès.
La ruée vers la chloroquine a commencé au Cameroun en mars après qu'un médecin français a annoncé que l'état de la moitié de ses 14 patients ayant suivi une thérapie à la chloroquine s'est amélioré. Le président américain Donald Trump a même qualifié ce produit de remède potentiel. En attendant la solution miracle, il est conseillé partout de se laver les mains et de rester confiné en espérant que le cauchemar sera bientôt terminé.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Burkina Faso, afin d'apporter sa contribution dans la lutte contre le Covid-19, l'espace d'innovation et d'entrepreneuriat Wakat Lab a commencé à fabriquer et à distribuer des solutions innovantes, comme par exemple des visières de protection imprimées en 3D. Arzuma Compaoré a joint le fondateur et PDG de l'espace, Gildas Giela, à Ouagadougou.
Nous, en tant qu'espace d'innovation, nous pouvons produire des visières pour offrir au personnel de santé et aussi, deuxièmement, travailler sur des ventilateurs respirateurs. Il y a un modèle de respirateur sur lequel on est en train de vouloir assembler, voilà, avec un poumon comme ça, de ce genre-là, avec lequel, en fait, nous avons imprimé tout ce qui est armature. Et donc, l'objectif, c'est vraiment, avec le moteur, de permettre, en fait, de pouvoir actionner, voilà, pour utiliser. On est en train de travailler sur un deuxième prototype. Là, en fait, c'est le moteur qui n'est pas est forcément adapté. Donc, on attend, même ce soir, on doit recevoir d'autres moteurs. Donc, on attend les nouveaux moteurs pour les assembler, en fait.
Alors, c'est très intéressant, mais ces visières, de façon concrète, comment elles aident le personnel soignant?
Rien qu'avec ton masque, tu es toujours exposé au danger, au fait. Et deuxièmement, voilà, ils ont des gants sur lesquels ils utilisent pour toucher tout, au fait. Donc, ça veut dire que c'est les gants qui sont infectés. Et facilement, avec un réflexe, tu peux vouloir te gratter les yeux, tu peux, voilà. Donc, avec ta visière, tu vas faire comme ça et tu vas te rendre compte que, ah, il y a une protection, au fait. Et évidemment, ça te protège. Vraiment, ça les protège beaucoup. Déjà, sur le modèle ouvert à tous, c'est que les gens, ils pourront en fabriquer eux-mêmes. Et ça va, au fait, permettre à chacun de fabriquer ses propres visières. Ça veut dire que nous, on ne va pas forcément, au fait, oublier d'en offrir à des gens qui sont dans l'extrême besoin.
On comprend bien, chacun pourra fabriquer son propre masque, mais ça va coûter combien?
Le coût, il est presque nul, au fait. Parce que déjà, le transparent, tu l'as à maximum 50 francs. Et le papier, et comment on appelle, le plastique vert qui est là, tu peux même le récupérer, au fait. Donc, c'est à un coût de production de maximum 55 francs.
Alors, toutes ces innovations, toutes ces visières, vous avez décidé de ne pas les commercialiser. Et pourquoi?
Notre objectif, c'est de montrer qu'en local, il y a des compétences qui peuvent produire de la valeur ajoutée. Et au-delà de COVID-19, pour qu'on puisse comprendre que ceux qui nous pensaient vraiment fous et des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie, parce que nous n'avons qu'à parler de Fab Lab, de prototypage, de recherche et développement, personne ne voulait nous écouter. Et je pense que maintenant, ils ont compris que ça a quand même une certaine valeur ajoutée. J'ai un petit regret par rapport à quelque chose. Si nos gouvernants et nos administrations avaient eu confiance aux jeunes qui travaillaient dans ce genre d'espace, aujourd'hui, en termes de respirateurs, on aurait fabriqué des milliers de respirateurs pour ce pays. On aurait déjà eu des plans qui sont validés par le personnel sanitaire qui, aujourd'hui, au lieu de travailler à faire valider, on allait en produire en masse. C'est en même temps un regret, mais je pense que c'est en même temps un appel pour qu'on puisse comprendre que la jeunesse africaine aujourd'hui a les compétences qu'il faut pour développer le continent.
C'était le fondateur et PDG de Wactalab, Gildas Giela. Il était joint à Ouagadougou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagnot. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Avec vous, Henri.